de travail, tout de suite elle aperçut Martine, plantée sur ses jambes, d'un air effaré. La veille, le docteur, en suivant la jeune fille, avait laissé sa porte ouverte, et la servante, entrée librement, venait de constater que le lit n'était pas même défait. Puis, elle avait eu la surprise d'entendre un bruit de voix sortir de l'autre chambre. Sa stupeur était telle qu'elle en devenait plaisante. Et Clotilde, égayée, dans un rayonnement de bonheur, dans un élan d'allégresse extraordinaire qui emportait tout, se jeta vers elle, lui cria « Martine, je ne pars pas. Maître et moi, nous nous sommes mariés. » Sous le coup, la vieille servante chancela. Un déchirement, une douleur affreuse blêmit sa pauvre face usée, d'un renoncement de nonne dans la blancheur de sa coiffe. Elle ne prononça pas un mot. Elle tourna sur les talons, descendit, alla s'abattre au fond de sa cuisine, les coudes sur sa table à hacher, où elle sanglota entre ses mains jointes. Clotilde, inquiète, désolée, l'avait suivie, et elle tâchait de comprendre et de la consoler. « Voyons, es-tu bête? Qu'est-ce qu'il te prend? Maître et moi, nous t'aimerons tout de même, nous te garderons toujours. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que tu seras malheureuse. Au contraire, la maison va être gaie maintenant, du matin au soir. » Mais Martine sanglotait plus fort et perdument. « Réponds-moi au moins. Dis-moi pourquoi tu es fâchée et pourquoi tu pleures. Ça ne te fait donc pas plaisir de savoir que maître est si heureux, si heureux? Je vais l'appeler, maître, et c'est lui qui te forcera bien à répondre. » À cette menace, la vieille servante, tout d'un coup, se leva, se jeta dans sa chambre, dont la porte s'ouvrait sur la cuisine, et elle repoussa cette porte avec un geste furieux. Elle s'enferma violemment. En vain, la jeune fille appela, tapa, s'épuisa. Pascal finit par descendre, au bruit. « Eh bien, quoi donc ? Mais c'est cette obstinée de Martine. Imagine-toi qu'elle s'est mise à sangloter quand elle a su notre bonheur. Et elle s'est barricadée, elle ne bouge plus. » Elle ne bougeait plus, en effet. Pascal appela, frappa à son tour. Il s'emporta, il s'attendrit. L'un après l'autre, ils recommencèrent. Rien ne répondait. Il ne venait de la petite chambre qu'un silence de mort. Et il se la figurait, cette petite chambre, d'une propreté maniaque, avec sa commode de noyer et son lit monacal garni de rideaux blancs. Sans doute, sur son lit, où la servante avait dormi seule toute sa vie de femme, elle s'était jetée pour mordre son traversin et étouffer ses sanglots. « Ah, tant pis !» dit enfin Clotilde dans l'égoïsme de sa joie. « Quelle boude !» Puis, saisissant Pascal entre ses mains fraîches, levant vers lui sa tête charmante, où brûlait encore toute une ardeur à se donner, à être sa chose, « Tu ne sais pas, maître, c'est moi qui serai ta servante aujourd'hui !» Il la baisa sur les yeux, ému de gratitude. Et tout de suite, elle commença par s'occuper du déjeuner. Elle bouleversa la cuisine. Elle s'était drapée dans un immense tablier blanc. Elle était délicieuse, les manches retroussées, montrant ses bras délicats, comme pour une besogne énorme. Justement, il y avait déjà là des côtelettes qu'elle fit très bien cuire. Elle ajouta des œufs brouillés, elle réussit même des pommes de terre frites. Et ce fut un déjeuner exquis. 20 fois coupé par son zèle, par sa hâte à courir chercher du pain, de l'eau, une fourchette oubliée. S'il l'avait tolérée, elle se serait mise à genoux pour le servir. Ah, être seule, n'être plus que deux dans cette grande maison tendre, et se sentir loin du monde, et avoir la liberté de rire et de s'aimer en paix. Toute l'après-midi, ils s'attardèrent au ménage. Balayèrent, firent le lit. Lui-même avait voulu l'aider. C'était un jeu, ils s'amusaient comme des enfants rieurs. Et de loin en loin, cependant, il revenait frapper à la porte de Martine. Voyons, c'était fou. Elle n'allait pas se laisser mourir de faim. Avait-on jamais vu une mule pareille quand personne ne lui avait rien fait ni rien dit? Mais les coups résonnaient toujours dans le vide morne de la chambre. La nuit tomba. Ils durent s'occuper encore du dîner qu'ils mangèrent, serrés l'un contre l'autre dans la même assiette. Avant de se coucher, ils tentèrent un dernier effort. Ils menacèrent d'enfoncer la porte sans que leur oreille, collée contre le bois, perçut même un frisson. Et le lendemain, au réveil, quand ils redescendirent, ils furent pris d'une sérieuse inquiétude en constatant que rien n'avait bougé, que la porte restait hermétiquement close. Il y avait 24 heures que la servante n'avait donné signe de vie. Puis, comme ils rentraient dans la cuisine, d'où ils s'étaient absentés un instant, Clotilde et Pascal furent stupéfaits en apercevant Martine, assise devant sa table, en train d'éplucher de l'oseille pour le déjeuner. Elle avait repris sans bruit sa place de servante.
« Mais qu'est-ce que tu as eu ? » s'écria Clotilde. « Vas-tu parler à présent ?»
Elle leva sa triste face, ravagée de larmes. Un grand calme s'y était fait pourtant, et l'on n'y voyait plus que la morne vieillesse dans sa résignation. D'un air d'infini reproche, elle regarda la jeune fille. Puis, elle baissa de nouveau la tête, sans parler.
« Est-ce donc que tu nous en veux ?»
Et, devant son silence morne, Pascal intervint.
« Vous nous en voulez, ma bonne Martine ?»
Alors, la vieille servante le regarda, lui, avec son adoration d'autrefois, comme si elle l'aimait assez pour supporter tout et rester quand même. Elle parla enfin.
« Non, je n'en veux à personne. Le maître est libre. Tout va bien s'il est content. »
La vie nouvelle, dès lors, s'établit. Les 25 ans de Clotilde, restée enfantine longtemps, s'épanouissaient en une fleur d'amour, exquise et pleine. Depuis que son cœur avait battu, le garçon intelligent qu'elle était, avec sa tête ronde, aux courts cheveux bouclés, avait fait place à une femme adorable, à toute la femme qui aime à être aimée. Son grand charme, malgré sa science, prise au hasard de ses lectures, était sa naïveté de vierge, comme si son attente ignorée de l'amour lui avait fait réserver le don de son être, son anéantissement dans l'homme qu'elle aimerait. Certainement,